Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Vous le connaissez peut-être. Christian Page a passé presque 4 années dans la rue, à Paris. Et il a raconté sa vie de SDF au quotidien, sur Twitter, sous le pseudo de Page Chris 75. Il est sorti de la rue aujourd'hui et il publie aux éditions Slatkin et compagnie un livre que j'ai vraiment trouvé magnifique, qui s'appelle Belleville au cœur. Et il est là, bien sûr. Bonjour Christian Page.
Ça va ?
Il paraît qu'on se tutoie.
Bah oui.
Tu préfères ?
Avec les amis, c'est cool.
Bon, alors si tu veux. C'est de ton livre que j'ai donc tiré mon histoire d'aujourd'hui. Je l'ai écrite au jeu. Tu vas voir, c'est une expérience intéressante. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai cherché à juste te prêter ma voix. Ton livre est beaucoup plus riche, bien sûr, que l'histoire que je vais raconter. Mais j'espère que tu la trouveras fidèle, mon histoire. C'est ça que je veux. Je l'ai écrite avec Simon Veil, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Il faut d'abord que je vous raconte comment ça a commencé, tout ça. Un soir, il y a bientôt 4 ans, vers 6 heures, je m'apprête à partir travailler. Je suis sommelier dans un restaurant chic, à la Madeleine. Je sers des acteurs, des footballeurs, des banquiers, tout va bien. Je suis casé, j'ai une femme, un fils, un appart nickel, 88 mètres carrés avec box et cave. Je suis au top. J'ouvre la porte pour partir. Et là, ma femme me dit « Christian, on sera plus là ce soir. » Elle me dit ça du genre « T'oublieras pas d'acheter le pain. » Je mets quelques secondes à encaisser. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Bah, je te dis qu'on sera plus là ce soir. » Je te quitte. Je pars avec le petit. Écoute, là, faut que j'aille bosser. Je peux pas être en retard. On en parlera quand je rentre, hein? Au calme. D'accord? Et là, je pars bosser. La boule au ventre. J'aurais pas dû. J'aurais dû appeler mon patron, trouver une excuse, rester, parler. Mais non, j'y vais. C'est le pire service de ma carrière. Je me loupe dans toutes mes commandes. Je pète un plateau de verre, une horreur. Je termine à 2h du matin, je saute dans un bus de nuit. Je me bouffe les ongles pendant tout le trajet. À l'arrivée, je fume une clope pour me calmer. Je suis prêt. Prêt pour la conversation la plus importante de ma vie. Je monte, je rentre, je fonce dans notre chambre. Vide ! Vide ! Je me rue dans la chambre de mon fils, vide elle aussi, le lit pas fait, les jouets par terre, le silence glacial. Et je trouve un petit bout de papier sur le buffet dans l'entrée. 10 ans de vie qui explosent en 3 mots. Voilà. Je m'effondre, je dors longtemps et d'une certaine manière, je me réveille 1 an plus tard quand un huissier sonne à ma porte, un jour d'avril 2015, et qui me fout dehors. Je me retrouve dans la rue. Et le premier soir, je fais la connerie du débutant. J'appelle le 115. Ah, je crois trouver une main tendue, un peu de réconfort. Tu parles. Je me retrouve en enfer, dans un chenil surpeuplé de 400 kleps pelés et affamés. Les gars appellent l'endroit Guantanamo. Des punaises sur les draps, de la merde dans les douches, des embrouilles dans tous les coins, et en prime, j'attrape la gale. Je veux aller me faire soigner à l'hôpital Saint-Louis, on m'envoie balader, sous prétexte que j'ai perdu ma carte vitale. Alors ben, je m'isole. Je suis contagieux, donc je me coupe des autres. Et au bout de 15 jours, je finis par trouver un médecin qui me soigne. Et donc, plus question d'aller à Guantanamo. J'improvise. Je dors dans le métro, je me lave au bain à douche. Dans la rue, c'est essentiel, se laver tous les jours. Si t'es sale à la première tâche, c'est fini. C'est pour ça que je décide de porter du noir, pour ne pas paraître sale aux yeux des gens. jour devant la boulangerie. Je croise mon voisin, le père de Momo, le meilleur copain de mon fils. Un type qui avant me disait « Christian, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. » Mais je vois tout de suite qu'il fait semblant de pas me reconnaître. Alors j'insiste. « Coucou, je suis là, c'est moi, Christian. » Il m'envoie bouler. Celui-là, je vous le dis, hein, la prochaine fois qu'on se recroise, c'est moi qui ne le reconnaîtrai pas. T'es loin, mon gars. T'es très loin de moi. Une autre vie. Par exemple, sur la place Sainte-Marthe à Paris, dans le 10e arrondissement, un matin d'hiver, il neige. Il fait encore nuit. Les grilles des deux bistrots sont encore baissées. Ça fait 2 heures que j'ai roulé mon sac de couchage. Et je suis là, seul. J'essaye de conserver un peu la chaleur de ma nuit sous mes 6 couches de fringues. Je m'emmerde, en fait. Alors je m'assois sur le muret de la mission évangélique. Heureusement qu'ils sont là, ceux-là. Heureusement qu'on a inventé Dieu, sinon on boufferait pas. C'est mon port d'attache, la mission évangélique. Ils servent 60 petits-déj et 100 dîners tous les jours. Et puis surtout, on est 500 SDF à être domiciliés là, à la mission. C'est là qu'on reçoit toute notre paperasse, le RSA, Pôle emploi, tout ça quoi. C'est mon adresse, la mission évangélique. Mais ma vraie boîte aux lettres, c'est mon portable. J'ai un abonnement à 2 euros par mois. Et on en fait des trucs avec 2 euros. Exemple, un jour, je suis en train de pioncer sur un trottoir dans mon sac de couchage. Un employé du nettoyage de la ville de Paris m'arrose exprès avec son jet d'eau. Exprès. Mes couvertures sont trempées. Mon sac de couchage aussi. Eh bien, je raconte ça sur Twitter. Dans la journée, vous entendez ? Dans la journée, Anne Hidalgo, la maire de Paris, me présente ses excuses personnelles. Et elle me donne son adresse mail, perso. Et on se met à parler, tous les deux, à échanger. Bon, après, j'ai un peu déconné, je lui ai écrit qu'elle était conne et gentille. Quoi ? Elle aurait préféré que je lui dise qu'elle était intelligente et méchante ? Bref, Anne et moi, on est un peu en froid. Tout ça pour vous dire ce que Twitter représente pour un type comme moi, dans la rue. Donald Trump a été élu avec ce truc. Et ben moi, c'est grâce à Twitter que je suis devenu le clodo officiel de Belleville. J'ai une tonne de gens qui me suivent, dans le monde entier. C'est un luxe ça, dans la rue. Je vous parlais de la mission évangélique tout à l'heure. J'y vais tous les matins. Sauf le lundi, c'est fermé. Mais c'est une routine épuisante, en vérité. On arrive, il y a déjà la queue. Il y en a qui essayent de doubler. Ça crie, ça se pousse. On a tous mal dormi. Et quand on sort de cette guerre d'attente, bah il est déjà midi. La matinée s'est envolée. La mission évangélique, ce sont des protestants. Mais je vais aussi chez les cathos, hein? Bon, on y mange moins bien, hein? Les sœurs sont gentilles, mais la cuisine, c'est pas trop leur truc, hein? La salade de betterave, le potage de pâte avec son bouillon cube, merci bien, hein? Sauf en hiver, hein? Elles font du riz au lait concentré, waouh! Ça tient au ventre toute la nuit. D'ailleurs, faut que je vous dise un truc un peu dérangeant. Le clochard, qui écrit sur son petit carton « J'ai faim ». Eh ben, c'est un menteur. On peut faire 10 repas par jour à Paris, si on veut. Il y a des associations, il y a des missions religieuses, il y a des bars et des restaurants qui nous offrent à manger. Si, si. Ça n'est pas vrai qu'on meurt de faim quand on est SDF à Paris. Dans la rue, le plus grand danger, c'est pas la faim, c'est pas le froid, c'est pas l'alcool. Le plus grand danger, c'est l'homme. Et l'alerte commence le 7 du mois, c'est-à-dire le lendemain du 6, parce que le 6, on reçoit notre RSA. Moi, ça me fait dans les 444 euros par mois, et les autres à peu près pareil. Et là, c'est la journée de tous les possibles. Il y en a qui vont au cinéma, d'autres qui vont boire, d'autres qui s'achètent des pompes neuves, il y en a qui jouent tout au PMU. C'est le jour où on s'achète des chaussettes, des clopes, un bout de shit. C'est la grande fête des allocs, quoi. Et le lendemain, le 7, ben il y a des types qui sont fauchés. Et là, commence la grande foire aux dépouilleurs. Le mois dernier, par exemple, je me suis fait avoir. J'étais écroulé sur un banc, bourré. Et là, je sens une main qui fouille mon sac dans mon dos. Bam ! Je lui en balance une. J'ai une de ses dents qui me reste plantée dans les phalanges. Une autre fois, près du canal Saint-Martin, je suis avec un pote. Depuis quelques jours, on a repéré un connard qui veut nous tirer nos affaires. Ça fait plusieurs soirs qu'il revient. Alors on se couche, on fait semblant de ronfler. Les yeux bien ouverts, on a laissé nos duvets ouverts. Et on a gardé nos chaussures. Il arrive, bam ! Mon pote lui balance un coup de matraque télescopique. Et bim ! Je le plaque au sol. Je peux vous dire qu'il reviendra plus nous emmerder. Dans la catégorie des pouilleurs, il y a aussi les fumeurs de crack, comme Rafik. Eux, ce sont les téléphones portables qui les intéressent. Ils les piquent et ils vont les revendre 20 euros à Barbès. Rafik, un jour, il a voulu piquer le téléphone d'un mec, place Sainte-Marthe. L'autre a été gentil, il lui a juste demandé de le rendre. Mais on n'a pas revu Rafik de sitôt, hein. Un type qui vole, c'est une info qu'on fait tourner. On arrête de lui parler, on arrête de l'aider. Le type se retrouve seul. C'est trop important, le téléphone. Tiens, hier par exemple, on s'est mis à trois sur un muret avec deux copains et on a regardé le match du PSG. Trois clodos qui regardent une tribu de millionnaires courir derrière un ballon. But d'anthologie de Zlatan. Dire que celui-là, il n'y a pas si longtemps, je lui servais des grands crus dans mon restaurant. Ce matin, je me suis réveillé à 5 heures. Avant, j'étais pas du matin, mais dans la rue, j'ai pris l'habitude de me réveiller aux aurores. Ça évite de croiser le regard des gamins quand ils partent à l'école. Je veux pas qu'ils me voient. Je veux pas me voir dans leurs yeux. Ça y est, j'ai trouvé un spot pour dormir, près du parc des Buttes-Chaumont, un belvédère. J'ai une vue magnifique. Je vous dis pas où exactement, parce que c'est le genre de truc qu'on garde secret, hein, pour pas se le faire piquer. Ils ont mis des galets par terre, coulés dans du béton, pour nous dissuader de dormir là. Mais j'ai mon système, hein. Je mets des cartons, par-dessus j'ai deux couvertures, et encore par-dessus mon duvet. Ça me fait une bonne épaisseur, bon, je sens toujours les galets bien sûr, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux que les matelas plastifiés qui sentent la pisse à Guantanamo. Je me suis fait un copain au Buttes-Chaumont. Un jardinier, grand gaillard, toujours volontaire pour pas travailler. Vous savez ce qu'on fait tous les deux ? On a repéré les bancs où le week-end, les gamins vont effriter leurs barrettes de shit pour se rouler des pétards. Eh bien, en une heure, en ramassant ce qu'ils ont laissé tomber, on peut se rouler un bon buzz, tout à fait décent. Je m'enroule tous les soirs, moi, des pétards. Sinon, je peux pas dormir. Je me le roule. J'allume ma lampe de poche. En général, je lis, face au Buttes-Chaumont. En ce moment, je lis le tome 2 de Vernon Subutex, de Virginie Despentes. Voilà. Je lis un chapitre, deux, trois. Je sens mon corps qui se réchauffe lentement, mes paupières qui s'alourdissent, et le livre glisse entre mes mains. Avant, j'avais un autre spot, dans le renfoncement d'une agence Pôle emploi, pas loin de la place Saint-Marthe. Les employés de l'agence me portaient un petit café le matin. J'ai des souvenirs là-bas. Mais un jour, je me le suis fait piquer. Tant pis pour moi. Je suis passé devant l'autre jour. Le mec qui a repris le coin a accroché une bâche au-dessus de son matelas. Il s'est fait un petit mur avec des cagettes le long du trottoir. Il doit être bien là-dedans. Ce matin, je suis en vrac. J'ai mal au dos, j'ai mal dormi, j'ai mal au crâne, j'ai une barre dans la tête. J'essaye d'émerger de mon sac de couchage, je sens des gouttes de sueur qui coulent dans mon dos. J'ai chaud, alors j'envoie balader mon sac de couchage pour sentir le froid. Je sors la bouteille d'eau de mon sac, j'avale deux aspirines, je la finis d'une traite. Je reste comme ça, 10 minutes, peut-être 20, à respirer. Ça y est, ouf, la vague est passée, je vais mieux. Enfin, je crois. Vous savez, on va pas souvent chez le médecin. Parce que quitte à y aller chez le médecin, moi, j'aimerais le faire sans honte. J'aimerais avoir un slip propre, quoi. J'aimerais avoir un corps propre. C'est humiliant de se foutre à poil dans notre état. Le corps lâche, mais pas l'orgueil. Alors, ben, on évite les médecins. Et pourtant, dans la rue, le moindre rhume vire au cauchemar. Il faut savoir tout arrêter pour se soigner. C'est pas évident. Moi, je me fournis en médicaments auprès de la doctoresse de la mission. L'autre jour, je me suis bousillé un orteil. Ça a fini par dégénérer. Alors, je suis allé aux urgences, obligé. Mais depuis Vigipirate, on hésite à aller à l'hôpital. Parce qu'ils nous fouillent le sac à dos à l'entrée. On perd, quoi, 2 heures sans être sûr d'être soigné. Quand ils ont fait Vigipirate, ils n'ont pas dû penser à nous. Hein. Ça nous rend la vie impossible. On ne peut plus rentrer nulle part à cause du sac. Nulle part. Et moi, mon sac, j'ai tout dedans. Tiens, par exemple, tous les 6 mois, je dois refaire mes papiers pour la couverture médicale universelle. Et pour ça, il me faut un acte de naissance. Eh bien, la dernière fois, j'ai mis 1 mois pour arriver à entrer dans la mairie. 1 mois. Le vigile voulait jamais me laisser entrer avec mon sac. J'ai dû revenir plusieurs fois jusqu'à tomber sur un vigile un peu moins con que les autres. Et ceux qui ont des chiens, c'est pire, hein ? Ils ne rentrent nulle part. Jamais ! Ce soir, il fait un froid de canard. J'arrive dans mon petit coin habituel, je sors mes 2 duvets de mon sac, je mets les cartons, dessus les couvertures, et au moment où je m'allonge, je vois une ombre qui s'avance vers moi. Un dépouilleur ? Non. Non, c'est le voisin. C'est le voisin du rez-de-chaussée qui rentre chez lui. Il s'accroupit à mes pieds. Monsieur, vous pouvez pas rester là ? Ben, je sais, ouais. Mais j'ai pas le choix. Fait trop froid, ce soir. Laissez-moi vous offrir une nuit à l'hôtel du coin. Ce type, je le vois tous les jours. Et il a dû s'apercevoir que le matin, je nettoyais mon campement. Que je laissais propre, quoi. Cette chambre d'hôtel, c'est sans doute la récompense de mon respect de la propreté du quartier. Ce matin, mon fils me manque. J'allume mon téléphone, j'ai sa photo en fond d'écran. Mon écran est pété, mais je le vois qui me regarde à travers les fissures du verre. Un t-shirt blanc, ses cheveux en bataille, les yeux bleus de sa mère. Il a 12 ans sur la photo, mais aujourd'hui il en a 15, d'ailleurs c'est son anniversaire. J'ai même pas son numéro. Mais c'est lui qui me soutient dans mes moments de détresse. Il m'aide à rester heureux. Je vous ai pas encore parlé de l'alcool. Le psy de la mission m'a proposé des antidépresseurs pour arrêter l'alcool. J'ai pas voulu, hein. Éteindre sa tristesse en éteignant son cerveau, très peu pour moi. Je préfère les effets de la bibine. La dernière fois que j'ai voulu arrêter, j'ai fait ça trop brutalement. Je me suis surestimé. Ça m'a donné des spasmes, des tremblements si violents que tous les copains se sont inquiétés pour moi. Un bénévole de la mission a fini par appeler les pompiers, ils m'ont embarqué à l'hôpital Saint-Louis, et là, un médecin m'a dit cette phrase que seul un mec comme moi peut entendre. « Monsieur, je crois qu'il faut que vous vous remettiez à boire. Hein? Depuis, à chaque fois que je vais au Franprix, je dis aux copains. Hé les gars, je vais à la pharmacie. Vous avez besoin de quelque chose? En ce moment, la mode dans la rue, c'est le rosé. Ça excite comme le blanc, mais c'est moins cher. Et c'est mieux que le rouge, parce que le rouge, ça fait dormir. Mais moi, le rosé, ça me fiche le ventre en vrac. Moi, je bois de la bière. Chacun sa bière, hein. Ils nous ont fait une bière pour nous, les SDF. La 8-6. Je connais même une fille qui boit de l'Amsterdam à 11 degrés 6. Moi, j'en suis pas encore arrivé là. Je bois de la Royal Club à 7 degrés. 99 centimes la canette. Quand je vais acheter mes bières, je m'arrête souvent devant les bouteilles de vin. Avant, j'étais sommelier. N'oubliez pas. Si j'avais les moyens, je me ferais bien un petit Pouilly Fuissé ou un Sancerre. Et ensuite, j'attaquerai un Gevrey Chambertin. Et le soir, je me terminerai au Cheval Blanc. Mais le vin, j'entends le déguster. Le vin, je le protège de mon ivresse. Un jour, je suis sur le Muret, place Sainte-Marthe. Allô?
Allô, bonjour. C'est Emmaüs à l'appareil. On vous a trouvé un logement, en banlieue nord, mais pas loin de Paris, hein.
3 ans et demi que j'attendais ça. Quand on m'a donné les clés, j'ai passé les 3 premiers jours à les garder dans la main. Je pouvais pas les mettre dans ma poche. Quand on retrouve un toit, faut apprendre à réorganiser son temps. La nuit devient interminable, la toilette prend 10 minutes, je peux me faire un café sans faire la queue à la mission. Je réapprends à construire mes journées. Mais tous les matins, après ma douche et mon café, je retourne place Sainte-Marthe, parce que c'est là que sont mes amis. Sauf que j'ai plus 20 kilos sur le dos. J'ai un petit sac avec un bloc, quelques crayons. C'est l'écriture de ce livre qui m'a permis de tenir toutes ces années. Puisque j'ai un toit, alors je vais pouvoir revoir mon fils. La dernière fois, il avait 12 ans. Il en a 16 maintenant. Je le serrerai dans mes bras. Et le matin, avant de partir, je ferai un petit crochet avec lui, place Sainte-Marthe. Parce que moi, maintenant, j'ai Belleville au cœur.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.